Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Orient. Il est 17h et voici votre point d'actualité avec vous, Souada Kermani et François-Xavier de Calonne. La communauté druze de nouveau prise pour cible, deux personnes tuées dans l'attaque d'un car à Souéida. À Gaza, une dépouille d'otages sera remise à Israël ce soir. On en sait plus sur la visite du pape Léon XIV au Liban fin novembre. Il se rendra sur le site de l'explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth. À Gaza, le Hamas va restituer dans les prochaines heures une nouvelle dépouille d'otages. Hier, le mouvement palestinien avait déjà remis à Israël le corps d'un 16e otage. Mais selon l'État hébreu, il s'agirait de restes humains appartenant à un otage déjà récupéré par l'armée il y a environ 2 ans. Le Forum des familles d'otages dénonce une grave violation de l'accord par le Hamas. La non-restitution des otages rend le cessez-le-feu fragile. Une équipe égyptienne est sur place pour participer aux recherches avec le Hamas et la Croix-Rouge, alors que Benjamin Netanyahou a convoqué une réunion d'urgence sur cette question. Une vingtaine d'étudiants et d'artistes palestiniens ont été évacués ce mardi de Gaza vers la France. Ces évacuations avaient été suspendues fin juillet après la polémique liée à une jeune palestinienne ayant tenu des propos antisémites sur X. On reste dans la région. En Syrie, des tirs ont visé un car ce mardi dans la province druze de Souéida. Bilan, 2 morts. Tous les passagers étaient druzes. La province de Souéida a déjà été marquée par des affrontements interconfessionnels en juillet dernier. Dans le Pacifique Est, les États-Unis ont mené lundi 3 frappes contre 4 embarcations de narcotrafiquants présumés. Bilan 14 morts et 1 survivant. Ces nouvelles opérations portent à 14 le nombre d'embarcations détruites par des frappes américaines dans les Caraïbes et Pacifique depuis début septembre. En France, Emmanuel Macron appelle à la résistance face aux réseaux sociaux. Le président a réuni 200 experts pour proposer d'ici la fin de l'année des mesures pour faire face aux menaces des réseaux sociaux sur la démocratie et les élections. Merci à vous d'avoir suivi ce point d'actualité et dans quelques instants, vos dossiers du jour. Ce sera dans un peu plus d'un mois le déplacement du pape au Liban. Léon XIV y est attendu le 30 novembre prochain. Ce sera une première pour le souverain pontife François-Xavier de Calonne.
Et oui, Léon XIV priera sur le site de l'explosion il y a 5 ans au port de Beyrouth, explosion qui a fait plus de 220 morts et dévasté une grande partie de la capitale libanaise. Le pape célébrera également une messe publique. Léon XIV, pour son premier déplacement dans le pays, rencontrera le président libanais, Joseph Aoun, et le premier ministre Nawaf Salam, le premier ministre qui s'est rendu samedi à Rome et au Vatican pour y rencontrer Léon XIV. Dimanche 19 octobre, alors qu'il recevait le président libanais, Léon XIV a qualifié ce déplacement à venir au Liban de message de paix et d'espérance. Le pape qui ira le 1er décembre sur la tombe du saint patron du Liban, Saint Charbel Mahlouf, une tombe située au monastère Saint-Maron d'Anaya, au nord de Beyrouth.
Le voyage du Saint-Père débutera en Turquie, François-Xavier Tessalon.
Et oui, un déplacement à l'occasion du 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Son arrivée est prévue le 27 novembre à Ankara, où il rencontrera Recep Tayyip Erdogan, ainsi qu'un groupe de responsables, d'organisations de la société civile, de diplomates, avant d'aller à Istanbul. Et le 28 novembre, le pape effectuera une journée à Iznik, la ville actuelle où se trouvait Nicée. Le pape y dirigera une prière œcuménique. Alors, un peu d'histoire, sachez que le premier consul œcuménique de l'histoire du christianisme remonte à l'an 325. Il avait rassemblé alors 300 évêques de l'Empire romain. Ce concile a aussi établi des bases doctrinales, toujours reconnues par de nombreuses confessions chrétiennes. Lors de son déplacement, le pape visitera aussi la célèbre mosquée bleue d'Istanbul et y rencontrera le patriarche orthodoxe Bartholomée Ier avant de célébrer une messe publique.
Et à présent, le dossier de la sécurité du musée du Louvre. Les recherches se poursuivent après le cambriolage survenu le 19 octobre. 2 jours après l'interpellation de 2 suspects, une délégation de la commission de la culture du Sénat effectue ce mardi une visite des installations de sûreté du musée, notamment les PC sécurité. Entretien avec un expert des questions de sécurité, Driss Aït Youssef, docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité publique.
les policiers ont déjà, et les gendarmes ont déjà démantelé des réseaux de cambrioleurs de bijoux qui écoulaient justement ces bijoux dans une filière très particulière qui atterrissait alors soit en Suisse, soit en Belgique, ou alors de plus en plus en Asie ou en Israël. Donc tout ça est très bien connu et c'est cette expérience qui aujourd'hui doit parler. Donc tous les individus globalement sont connus. Quand on a eu des quelques articles de presse qui fait écho du fait que les policiers avaient identifié que les individus étaient déjà sous enquête. Voilà, donc c'est tout ça, c'est cette expérience qui aujourd'hui doit parler.
Et il a souvent été évoqué la piste d'une commande de la part d'une tierce personne. Est-ce que cette piste reste privilégiée aujourd'hui ?
Alors, la tierce personne, il faut toujours savoir ce qu'il y a derrière. Tierce personne, est-ce que c'est un collectionneur d'art, ce que je ne crois pas, ou une tierce personne qui a envoyé ces deux individus jeunes, 30 ans, pour commettre ce casse avec beaucoup d'amateurisme, il faut bien le reconnaître. Moi, je crois plutôt à cette hypothèse, savoir effectivement une commande d'une personne qui, au regard de la quantité à la fois d'or et de pierres précieuses, a besoin voilà, à commanditer ça. Je crois plutôt à cette... Mais encore une fois, il n'y a que l'enquête qui dira le reste.
Il y a un paradoxe hein, que vous venez de mettre en lumière. Ces personnes qui ont commis ce cambriolage avec beaucoup d'amateurisme, mais cela pourtant dans le musée le plus visité au monde. Comment est-ce que vous expliquez cet amateurisme et le fait que ces personnes ont pu cambrioler ce musée qui malgré tout était sous très haute protection ?
Amateurisme ne veut pas dire déterminé. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être un amateur, mais déterminé. Et ce qui a fait le succès, entre guillemets, de cette opération, parce que le succès d'une opération, en fait, il se mesure à, au fait, on vous attrape, on ne vous attrape pas. Donc là, pour le coup, ils ont été attrapés une semaine après. Donc y a, voilà. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont déterminés. Et donc, ils ont une logistique, hein, parce que, bon, voilà, il faut des disqueuses, des talkie-walkie, etc. Et puis surtout, savoir que c'était par cette fenêtre qu'il y avait un repérage qui a été fait directement sur les bijoux, avec les disqueuses, etc. Donc, ils étaient extrêmement bien renseignés. Donc, il y a cet amateurisme qui est notable, il est frappant, sans, plus de 150 traces ADN relevées, prélèvement ADN, mais dans le même temps, voilà, ce sont des individus qui sont déterminés. On a affaire à de plus en plus d'individus déterminés, d'individus extrêmement violents. Bon, c'est la délinquance aujourd'hui telle qu'on la connaît, la délinquance violente.
Sachant que l'enquête porte bien entendu également sur la manière dont ils ont pu obtenir ces renseignements. En clair, qui leur a donné tous ces renseignements ?
Aujourd'hui, les services enquêteurs et l'autorité judiciaire travaillent, quand j'emploie souvent le terme de sous-couche, c'est un peu comme Mohamed Amra, il ne suffit pas de rattraper l'individu, c'est d'attraper l'individu, ceux qui l'ont aidé à s'évader, ceux qui ont financé sa cavale, ceux qui soutiennent l'individu. Là, c'est pareil, c'est d'aller chercher les commanditaires, les resellers, si les bijoux ont été revendus, voilà, c'est de les logisticiens, c'est ceux qui ont, voilà, donc c'est d'essayer de démanteler l'intégralité du réseau. L'objectif, c'est vraiment de démanteler l'intégralité du réseau. En plus, évidemment, de récupérer les bijoux intacts, c'est de démanteler le réseau.
C'était Driss Aït Youssef, docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité globale, au micro de François-Xavier de Calonne. C'est la fin de votre édition. Merci de votre écoute. Merci beaucoup à Mohamed Bizri pour la réalisation. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.